Oui, donc je me suis intéressé à ce sujet sur l'événement comme catégorie d'histoire politique au départ, mais plus largement comme catégorie d'histoire, dans le sens où elle permet de travailler la complexité des temporalités hein, et d'interroger les liens de causalité, tous sujets qui sont prégnants dans une histoire universitaire classique, mais qui ont, à mon sens, toute leur place hein, pour travailler sur l'événement à partir de récits des élèves, tels qu'ils se donnent à lire dans ce corpus. Donc mon propos hein, va être d'interroger cette catégorie de l'événement comme pertinente ou pas, on verra qu'il y a des discussions possibles, hein, pour interroger les récits des élèves, et donc vraiment d'essayer de travailler sur cette question, et donc d'amener moins de renseignements à un factuel sur les récits des élèves, mais vraiment d'essayer de trouver une clé d'entrée, travailler cette clé d'entrée sur ces récits avec toute la diversité, tout ce que les intervenants dans ce colloque ont déjà largement abordé. Alors je m'excuse si je répéterai des choses, hein, mais c'est un peu les risques de passer en dernier, mais ça permet aussi finalement parfois d'abréger le propos. Alors, quelles sont les questions qui sont posées d'abord? Première question, finalement, est-ce qu'il est pertinent d'utiliser l'événement en tant que tel comme catégorie d'analyse du récit? Est-ce qu'il faut conférer à des dates, parce que c'est ça, ce qu'on a devant nous sont des dates très souvent, des faits énoncés le plus souvent de manière brute, le statut d'événement? C'est quand même une question importante, et c'est celle autour duquel je vais tourner tout au long hein, de l'intervention, parce qu'elle me paraît particulièrement complexe à traiter. La seconde interrogation passe par l'usage des événements dans l'analyse. Il me semble qu'à partir de l'événement, on peut commencer à interroger finalement les analyses qui sont possibles à un niveau général sur l'ensemble des récits dans l'espace public. Il me semble que là, on a une entrée possible. Et finalement, la dernière interrogation, hein, ça va être d'essayer de justifier finalement l'usage de l'événement, mais repris dans une problématique plus large qui est celle de l'historicité, pour comprendre les liens donc entre l'événement et finalement les contextes, dit plus rapidement, les contextes sociaux, politiques, du temps présent. Donc mon premier temps, je vais travailler d'abord sur l'événement dans les récits. Mon deuxième temps sera sur finalement les usages qu'on peut faire des événements dans les récits, avant de travailler donc sur cette question de l'historicité. Alors l'événement dans les récits, alors la première figure, finalement, qu'appeler l'événement dans le récit des élèves? C'est le premier point à démêler. Le choix que j'ai fait hein, fut de considérer toute citation d'un fait, voire d'une date, comme potentiellement un événement. Bon, c'est un choix arbitraire sur lequel je reviendrai au fur et à mesure, hein, tant ils occupent une place de marqueur dans les récits. Donc vraiment une place de marque dans les récits. C'est ce qui ponctue les récits de manière permanente, ce qui leur donne leur rythme, leur vie. Donc, cette visée initiale très très large hein, amène à retenir la plupart des récits comme potentiellement porteurs d'événements. Alors finalement, comment est-ce qu'on va retrouver ces événements? Alors tout d'abord, la plupart du temps, ils prennent place dans une suite. J'ai mis ici, hein, c'est quasiment au hasard, j'ai pris typiquement, voilà, ce genre de suite d'événements. Au début, la France s'appelait la Gaule, était habitée par les Gaulois. Après la victoire de Jules César, premier événement, la Gaule envahie par les Romains. Puis les Romains et les Gaulois ont laissé place à la monarchie, d'abord à Clovis, Charlemagne, qui s'est fait sacré empereur, le sacre de l'empereur, plusieurs Louis. Et je passe la suite des Louis et machin. Louis XVI qui s'est fait guillotiner. Après, les Français ont fait une sorte d'assemblée, mais Napoléon III se sont fait sacrer empereur, etc., etc. Donc on voit ici, c'est quelque chose qui a été évoqué, je crois, hier par Laurence, à savoir l'entremêlement des événements et des personnages qui donnent des suites qui sont intimement liées la plupart du temps et qui, à mon sens, font sens. Alors, ces séries peuvent être organisées comme celle-ci, mais elles peuvent être aussi dans le plus grand désordre. Elles peuvent être dans un grand désordre. Voilà, on retrouve assez régulièrement ce type de récit. Il y a eu la Première Guerre mondiale et la victoire, l'entrée dans l'Union européenne, le passage du franc à l'euro, la Deuxième Guerre mondiale et la victoire, la création des départements, la noblesse, le tiers-État, le clergé, les montagnes, le président, la prise de la Bastille, la déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen, le roi soleil, la chambre des glaces. Alors, ce genre de récit incite à la modestie tout enseignant en histoire-géographie, déjà. dont je fais partie. Hein. Mais après, c'est un désordre hein, qui n'est pas qu'apparent. On retrouve hein, différentes formes de désordre. Vous avez un oubli de la chronologie totale, où des choses se succèdent, mais alors sans aucune organisation. La juxtaposition de repères, parfois on a simplement une juxtaposition de dates qui se continuent sans lien entre elles. Et l'énumération longue, où se côtoient des éléments de nature différente, typiquement celui-ci. On est donc quasiment en présence d'un inventaire à la Prévert, quoi. Enfin, un inventaire à la Prévert, où les choses se cumulent. De fait, cette énumération dilue la force de l'événement. Dilue la force de l'événement, lui fait perdre toute sa singularité. L'événement, c'est ce qui découpe, ce qui fait une césure, ce qui organise un avant et un après. Donc si on prend littéralement ce genre de désordre, l'événement perd vraiment sa pertinence. Et finalement, à la première lecture, on peut penser, finalement, on peut se dire, en lisant ce type de récit, que l'événement n'est pas une bonne clé pour rentrer dans les récits des élèves, que peut apparaître comme une clé, finalement, inefficace. Alors, à cette interprétation, on peut opposer une autre lecture, à partir de dire que le récit est finalement une marqueterie. Quelque part, c'est une marqueterie, une suite d'événements, qui permettent à l'élève de donner un sens à son propos, autant que de retrouver la forme scolaire. Autrement dit, l'événement peut retrouver sa singularité, s'isoler au sein de cette marqueterie. Et donc, de fait, le récit devient une succession d'événements et non pas une suite d'événements, ce qui permet de réintroduire l'événement dans le cadre de l'analyse. Évidemment, ici, l'événement réapparaît, non pas dans une stricte définition historiographique, ce que je disais tout à l'heure, l'avant, l'après, la césure, la réorganisation du passé, mais dans la possibilité qu'il soit autre chose qu'une simple date, ce qui est déjà quelque chose d'important, qu'un simple fait, dans une litanie parfois peu construite et dans des structures chronologiques inexistantes. Et ça permet à l'événement, dans ce cadre-là, si on accepte ce prémisse, de retrouver sa capacité à être compris à la fois dans le cadre de l'histoire scolaire, après tout, l'événement isolé nous permet de travailler dans le cadre d'une histoire scolaire, mais également, finalement, de retrouver l'histoire universitaire telle qu'elle se comprend, telle qu'elle s'écrit. Ça, c'est donc, je postule, après on peut en discuter, que effectivement l'événement, en tant que tel, est une catégorie d'entrée sur les récits, si on outrepasse, à un certain moment, le désordre apparent des séries telles qu'elles sont faites. Le deuxième temps de mon interrogation, c'est l'usage qu'on peut faire, finalement, de l'événement dans les récits. À travers deux grilles d'explication assez caractéristiques, finalement, c'est la reprise d'une antienne. Finalement, on n'enseigne plus l'histoire à nos enfants. Vincent est un spécialiste de genre de texte. On n'enseigne plus l'histoire à nos enfants. Autrement dit, finalement, quelle interprétation on peut avoir ce genre de choses ? Je connais la prise de la Bastille au XIXe siècle, quand il ramenait les Juifs dans les camps d'extermination. Le roi Louis XVI au XIXe siècle, et quand ils l'ont attrapé, ils l'ont exécuté Louis XIV. Bon, en dehors de la sempiternelle modestie de l'enseignant d'histoire, ça pose quand même une question intéressante, parce que quel usage est-ce qu'on peut faire de cela ? Quel usage est-ce qu'on peut faire de ce type de récit si on l'isole tel quel, et finalement si on fait une rentrée par l'événement, parce qu'on est toujours à l'intérieur de ça ? Si vous lisez ça comme ça, le premier usage, c'est évidemment que il y a une absence de repère des élèves. Très concrètement, il y a une absence de repère des élèves. L'accumulation des événements montre l'incapacité du système éducatif et au-delà de la nation à proposer une culture commune aux élèves. Ces élèves qui sont considérés comme des jeunes Français en apprentissage. On est à l'intérieur de cet élément. Donc l'usage des repères, si on passe par la grille des repères, qui est une grille institutionnelle, qui est aussi une grille institutionnelle, qui est proposée telle qu'elle dans les cas des programmes du premier degré, par exemple, fait que dans ce cadre-là, on va avoir un événement qui va perdre totalement sa singularité, si on est à l'intérieur de cette grille, de ce travail sur les repères. L'événement perd de sa singularité, disparaît en tant que catégorie autonome, produisant ses propres grilles d'analyse au profit donc d'une lecture qui va être liée à l'érection de la culture nationale républicaine comme seule aune du récit scolaire de l'élève. Donc si on prend cette lecture-là des repères, l'événement égale repère, l'événement en fait disparaît en tant que tel pour finalement demeurer comme simplement un repère. À une autre dimension de cet usage, on n'enseigne plus l'histoire à nos enfants, c'est celle de la sauvegarde de l'histoire comme enseignement. On n'est pas exactement dans le même propos de l'histoire comme enseignement. La confusion des suites chronologiques peut se comprendre également comme l'échec d'une modalité de l'enseignement de l'histoire. Donc, ça peut se comprendre comme cela également. Pas simplement l'européen, mais comme une échec modalité d'enseignement de l'histoire. Dans cet usage-là, moi, je vois transparaître le poids des associations professionnelles, des enseignants d'histoire-géographie, qui peuvent se saisir de cet élément-là pour être amenés à avoir une défense, finalement, de l'enseignement en tant que tel, sans mener une réflexion sur le contenu de l'événement, sur le contenu de l'histoire. Je pense qu'on est là en présence d'un usage possible du récit des élèves. Cela dit, de la même manière que le travail par les repères fait disparaître l'événement, cette entrée également fait disparaître l'événement en tant que tel, en tant que catégorie d'analyse donc des récits. Et donc ça fait disparaître la multiplicité de l'événement, sa capacité de l'événement à installer des incertitudes et des possibles. Parce que l'événement, c'est cela aussi, au profit donc de grilles de lecture très ordonnées. Une grille très ordonnée par des repères stables, repérés, appris. Autre possibilité d'interprétation, c'est celle du roman national. C'est celle du roman national. Dans le cadre donc du roman national comme élément d'analyse des récits, on peut dire que l'événement est compris comme très largement emblème de la nation. Donc là, je regarde Laurence, grande spécialiste du roman national. Si on utilise le roman national comme grille exclusive de lecture, sur les récits des élèves, à mon sens, on fait également disparaître l'événement en tant que tel, en tant qu'il émet des possibles, crée des possibles, crée de la pluralité, au profit d'un récit simple, pas simplifié, au profit d'un récit simple, d'une histoire scolaire où les faits s'inscrivent dans une trajectoire fluide et lisse portée par la dynamique de progrès. Là, je cite, c'est une citation. Donc le roman national, dans ce cadre-là, de la même manière, fait disparaître l'événement. Fait disparaître, ne prend pas l'événement au sérieux comme catégorie d'analyse. Ce que je dis là n'est pas un procès ou je ne sais quoi, c'est simplement, à un moment donné, d'essayer de trouver une possibilité d'appréhender l'histoire qu'on voit à travers le récit des élèves, à travers la catégorie de l'événement. Et donc cette possibilité, à mon sens, et ça sera mon troisième point, c'est de travailler à partir donc de ce qu'on appelle l'historicité. Alors, qu'entendre ici par historicité, hein, c'est une notion qui est travaillée depuis une dizaine d'années en histoire, à partir donc des travaux de François Hartog, si je me souviens bien. Oui, c'est François Hartog, et qui a fait l'objet donc d'un numéro de 20e siècle il y a peu de temps. Je laisse un petit peu ici la notion présentée. Travailler donc, à mon sens, à partir de cette notion, revient à appréhender des modalités d'appréhension donc du passé et du futur à partir d'un présent, à partir du présent, et laisse ouvert la possibilité de concurrence de définition du passé historique au sein d'une historicité contemporaine. Il me semble qu'il est possible de s'appuyer sur cette idée de concurrence pour tenter d'appréhender l'événement dans les récits des élèves, tel qu'il apparaît donc dans ces récits. Le rapport des élèves à l'histoire nationale renvoie, à mon sens, à une historicité dans laquelle un récit ordonné des origines s'efface devant la pluralité des faits, des singularités passées et présentes, irréductibles à un devenir collectif. Considéré à l'aune de l'historicité contemporaine, l'omniprésence de l'événement dans le récit des élèves devient finalement la reproduction d'une fragmentation. Une fragmentation inhérente aux historicités contemporaines. À l'historicité contemporaine, je vais garder le singulier. Je vais garder à l'historicité contemporaine. La conséquence en est finalement la disparition du désordre que j'avais signalé tout à l'heure, voire de la série, comme catégorie de compréhension pour laisser place à la tentative de saisie de cette concurrence de la définition de l'histoire dans l'historicité contemporaine. À titre d'hypothèse, c'est vraiment à titre d'hypothèse, j'en discerne trois tels qu'on les voit apparaître à travers les récits des élèves. Le premier, c'est la structuration par le passé patrimonial. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été évoqué ce matin, mais il me semble que c'est extrêmement important pour essayer de comprendre, finalement, cette concurrence, en fait, de définition des passés telles qu'on les retrouve dans les récits. Le second se comprend dans l'horizon du présent, vraiment où le présent écrase totalement le passé, et on en retrouve des traces, d'ailleurs, dans les récits des élèves. Je vais en montrer un ou deux exemples pour bien vous faire comprendre comment ça fonctionne. Le dernier élément de cette concurrence est intimement lié à l'institution scolaire et permet d'expliquer finalement cette longue, cette litanie d'événements telle qu'on la voit. Alors je vais vous mettre un exemple à chaque fois pour essayer de comprendre comment cela peut fonctionner. Sur le patrimoine, je vous ai mis un ici. Hein. Je suis allé dans plusieurs monuments historiques, pardon. La cathédrale de Strasbourg, on a monté plus de 50 marches. Le château du Königsbourg, il a été construit en haut de la montagne pour que les assaillants soient vite découragés. À Dunkerque, en Bretagne, ma famille et moi, passé devant une église qui a été mitraillée, ensuite reconstruite, et le lendemain, elle a nouveau été mitraillée. Alors les habitants ne l'ont plus reconstruite. En Alsace, au château de Landsburg, alors ça, je ne sais pas du tout, c'est. Il y a un puits de 17 mètres. En Vendée, au Puy du Fou, là je vois mieux où c'est, il y a l'histoire de Vendée. Les Vendéens voulaient que les rois restent au pouvoir, alors les républicains ont livré bataille et ont gagné. Ici, très concrètement, c'est le lieu qui incarne le passé. C'est le lieu qui incarne le passé. Il n'y a pas de passé en tant que tel. Le lieu incarne le passé, où se mêle passé et présent de l'élève. Il se met en scène. Je passe là. Je suis là. Et en étant là, je vois le passé. Et finalement, on a un entrelac de ces dimensions-là. Cette réduction du temps, finalement, à un espace, alors muséifié, patrimonialisé, conviendrait sans doute mieux, suppose la disparition de l'événement comme catégorie d'initiation, ce qu'est le passé. Là, l'événement n'a pas de pertinence, en l'occurrence. L'événement disparaît au profit d'un lieu. D'un lieu, et je reviens un petit peu, là, vous voyez, je reprends des choses qui ont été dites ce matin à travers ce qui a été dit sur le patrimoine, mais également sur l'espace. Lieu qui devient l'incarnation de l'histoire à travers la personnalisation du récit. Donc ces récits mettent en évidence une dimension patrimoniale extrêmement forte, à mon sens. Alors, à côté de ces et en concurrence, je pense que le terme de concurrence permet de saisir un peu ce qui se passe dans les récits, se déploie dans les récits donc une appréhension fondée sur l'immédiateté, le présent. Celle-ci peut prendre des formes différentes, s'adosser à des appréciations qui renvoient au présent dans ses différentes facettes, ou refuse de considérer le passé comme digne d'intérêt. Là, j'en ai trouvé une bien. J'aime bien les voitures d'aujourd'hui comparées à les voitures d'avant. Et avant, il n'y avait ni Internet ni les jeux vidéo. Et les images, ça a l'air terrible, et les images étaient en noir et blanc. Là, on atteint le summum de l'horreur. Les images en noir et blanc, là, on est dans l'incompréhension totale.
C'était le Moyen-Âge.
Là. On est quasiment à la préhistoire. Même. Donc ici, tout ça pour dire que pour l'élève qui écrit ça, le passé n'existe pas en tant que tel, n'a pas d'intérêt même. N'a pas d'intérêt. Ce qui compte, c'est le présent, et qui, en creux, est valorisé à l'intérieur à travers ce type de récit. Donc là, on a quelque chose qui est à nouveau, finalement, l'événement disparaît en tant que tel, n'a pas de prix sur ce type d'historicité où, finalement, on essaie de construire le passé uniquement sur le présent, où le passé est totalement rabattu sur un présent. On va le retrouver ici à travers cette citation également. « L'histoire et le passé, pensons au présent. » Comme ça, c'est clair. Je connais surtout la Première et la Seconde Guerre mondiale grâce au jeu Call of Duty. S'il y a des parents, ils voient ce que je veux dire, à moins qu'il y ait des joueurs aussi. Il y a aussi la guerre du Vietnam avec Call of Duty 5. Ces jeux nous apprennent plein de choses, entre autres la Troisième Guerre mondiale future, Modern Warfare 3. Il y a aussi l'âge préhistorique et le Moyen-Âge. Je l'ai appris avec la classe l'an dernier, mais surtout, merci aux jeux vidéo. Alors la citation est... Là, il y a le récit complet, hein, c'est un récit complet. Est quand même intéressante dans le sens où elle se cale vraiment sur le présent de l'élève tel qu'il existe et auquel il rabat tout le reste. Et donc, ici, par cette entrée par l'historicité, on voit bien une concurrence se mettre en place pour la définition donc, d'une histoire à l'intérieur de l'historicité contemporaine. Alors, une autre modalité, la dernière modalité, c'est celle du rapport à l'historicité contemporaine, peut être repérée liée à l'institution scolaire. Et c'est là où on voit rejaillir finalement l'événement, la présence foisonnante des dates, des événements, permet de postuler la possibilité d'une histoire générée par l'institution, réappropriée par les élèves, parce que c'est ça aussi l'intérêt, c'est réappropriée par les élèves, qui en font un rendu épars, dispersé, totalement rétif aux catégories indigènes à l'institution scolaire. Ça aussi, à mon sens, qui est intéressant. Pour autant, y compris dans ces récits, et c'est là, je trouve, où l'événement prend sa place, l'événement demeure dans la force de sa nouveauté. Oui, c'est celle-ci. Je voulais reprendre celle-ci. Ici, si on regarde attentivement, on voit que la prise de la Bastille se situe donc après la Seconde Guerre mondiale. Bon, il y a une forme de logique avec des noblesses tiers-états. Et avant le roi soleil. Mais elle demeure comme événement symbole de la Révolution. C'est ce qu'expliquait tout à l'heure François. Je pense que c'est là l'important. Où est l'important finalement? Sa place dans l'énumération ou sa présence comme marqueur d'une modification radicale, d'une révolution, hein, de temporalité très particulière à l'histoire de France. Et donc les questions qui se posent à nous, hein, qui se posent en tout cas à moi, c'est finalement comment s'opère la sélection des événements au-delà de leur adéquation avec les programmes scolaires. Qu'est-ce qui travaille chez les élèves pour finalement faire apparaître ces événements à un moment donné à l'intérieur de cette diversité. Mais là, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. Hein, c'est un peu les mêmes interrogations là qui sont présentes. Et donc cet ensemble de questions délimite les difficultés d'appréhension de l'efficacité de l'institution pour délimiter un passé, une histoire, à partir de ses propres politiques, parce que là on peut parler de politique de l'institution, face aux concurrences qui existent au sein de l'historicité contemporaine. Donc ici, il me semble que les récits des élèves, et je conclurai vraiment là-dessus, les récits des élèves portent la marque de la difficulté d'appréhender les événements, d'appréhender l'événement comme catégorie hein, d'analyse, mais que si on utilise la catégorie de l'événement, ça permet d'essayer de travailler la question, finalement, des configurations présentes dans les récits des élèves, en particulier de poser cette question de l'historicité, finalement, comme catégorie possible d'analyse des récits des élèves, ce qui laisse ouvert un plat d'exploitation possible.